questionne et qui arrive à poser entre guillemets un diagnostic.
C'est exactement ça.
Et toi, tu, après, tu grandis avec et ça fait partie de toi, alors que moi, j'ai plutôt le truc inverse, c'est que je suis restée très longtemps avec mes questions et personne ne l'a jamais vu. Et du coup, t'es même pas... tu ne mets même pas de mots dessus pendant très, très longtemps, en fait, parce que tu ne sais pas ce que c'est, tu n'en as jamais entendu parler et tu te dis juste que tu es un peu bizarre.
Oui, mais ben voilà. Donc du coup, je trouve que c'est deux profils, ça fait deux profils qui sont dans ce sens-là intéressants, parce que ça faudra dire que potentiellement plus de monde pourra se reconnaître peut-être et du coup y trouver son compte aussi dans les solutions qu'on peut trouver ou qu'on peut donner. Et voilà. Après, je pense qu'il y a des tas de choses qui se recoupent.
Je pense que l'image, les gens ont pas mal l'image aussi du petit génie genre Malcolm. Moi, c'est ça que j'avais, un Malcolm, numéro de carte de crédit et qui peut faire des opérations de ouf. Alors que moi, je suis une nullité absolue en maths et je suis une teubée avec les chiffres, tu vois. Et du coup, ça collait pas trop avec l'image, quoi, que j'en avais.
Bah oui, oui. Mais alors du coup, c'est ça. Est-ce que tu peux me réexpliquer, assez rapidement quand même, mais comment tu en es venue à décider de passer le test? Est-ce que c'est toi qui as décidé de passer le test? Est-ce que c'est la psychologue que tu as vue qui...
Je te dis, après tu feras le tri parce qu'il y a des trucs que je te dis, enfin parce qu'on est amis aussi et que c'est lié à mon histoire à moi et voilà, donc après tu feras le tri sur ce que tu veux laisser ou pas.
Ouais.
Mais moi en fait c'est... Donc je l'ai passé, c'était en septembre dernier, donc juste avant mes 30 ans.
Ouais.
Et en fait ça faisait un bout de temps que... Alors je mettais pas le mot dessus parce que déjà HP je connaissais pas... Parmi les mots connus, il n'y avait que surdoué. Et moi, je ne m'associais pas du tout à ça parce qu'on avait l'image. Le surdoué, comme je te dis, c'est le type ou la fille super douée en tout, qui est un petit génie, qui pourrait rentrer à la NASA. Et clairement, moi, ce n'était pas du tout mon cas parce qu'il y avait des domaines dans lesquels... Enfin, j'ai toujours été très bonne à l'école. Mais il y avait des domaines dans lesquels j'étais un peu performante de manière intuitive, toutes les matières littéraires, et d'autres où c'était vraiment la cata. Je n'arrivais pas à m'y intéresser et j'étais du coup très naze, genre les maths.
Ouais.
Mais il n'empêche que depuis assez jeune, je dirais depuis le primaire, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un petit décalage entre moi et les autres personnes de mon âge. Ça s'est un peu comblé à arriver à l'âge adulte. Mais par exemple, quand j'étais en primaire, je me rappelle très bien en CE2, ma meilleure amie, elle était en CM2. Tu vois, ça fait quand même 2 ans d'écart, c'est beaucoup à ces âges-là. Et puis pareil au collège, le fait de pas forcément s'intéresser à ce à quoi les autres s'intéressent... La mode, ça me passait un peu au-dessus. Les garçons, j'étais pas du tout émotionnellement mûre dans certains niveaux, notamment tout ce qui était l'émotionnel, en fait. J'avais l'impression d'être encore une petite fille au niveau émotionnel, mais par contre, au niveau intellectuel, je sais que je m'intéressais à des trucs qui intéressaient pas les gens de mon âge.
Oui.
Je te prends une bêtise, mais j'ai lu 1984 de George Orwell, j'étais en 6e. Clairement, c'est pas des trucs que... Enfin, je pouvais pas en discuter dans la cour de récré. Les gens étaient pas intéressés par ça. Mais à côté de ça, moi, j'ai jamais eu... Il y a fait un temps en temps, parfois, des témoignages de gens qui ont été les souffres-douleurs ou qui étaient vraiment mal dans leur peau, etc. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai toujours eu des amis. Il y avait des moments plus ou moins cool. Mais j'ai jamais eu de problème de socialisation. J'étais bonne à l'école parce que je pense que j'avais une forme d'intelligence qui rentrait bien dans ce que l'école attendait. Et du coup, j'ai jamais trop eu de problème. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce petit questionnement dans la tête qui, en même temps, tu te juges très prétentieux de l'avoir parce que tu te dis finalement tout le monde se pense différent des autres et surtout à l'adolescence, tout le monde peut avoir ce sentiment d'être un peu en décalage avec des autres, qu'on ne le comprend pas, que ceci, que cela. Et en fait, ça a continué à la fac parce que je me rendais bien compte à la fac que je bossais pas énormément et que j'avais des bonnes notes. Alors, tu mets toujours ça sur le compte de « Ah, j'ai eu de la chance, j'ai révisé que ça, c'est tombé sur le bon sujet. » Et en fait, je pense que oui, il y avait une part de chance, mais que c'est aussi, je me suis rendu compte que j'avais une très bonne mémoire. Mais c'est le truc, c'est que comme tu n'as pas de point de comparaison, parce que tu n'es pas dans la tête des autres, donc tu penses que c'est pour tout le monde pareil. Et tu penses que tout le monde raisonne comme toi et que tout le monde a les mêmes... Enfin, fonctionne de la même façon. Et puis à l'inverse, moi, comme j'étais nulle dans certains trucs, voilà. Mais c'était un truc un peu dans un coin de ma tête, sans mettre de mots dessus, sans forcément... Voilà. Et puis, c'est suite à mon histoire avec Franck, parce qu'en fait, c'est Franck qui m'a demandé, ça faisait genre, c'était notre deuxième rendez-vous.
Oui.
Et c'est lui qui m'en a parlé. Et il m'a dit, mais est-ce que tu as déjà fait le test pour le haut potentiel ? Et paradoxalement, ça m'a soulagée que quelqu'un mette un mot dessus, même si j'avais pas fait le test, rien du tout. Mais que voilà, que ce que moi j'avais quelque part dans un coin de ma tête, ben on m'en parle en fait. Et du coup, bon, le temps a un peu passé, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et une fois après cette rupture où c'était un peu, je remettais un peu tout en cause dans ma vie, je voulais repartir sur des bonnes bases et tout, j'ai finalement décidé de faire le test. Ça a été une décision qui a été un peu longue parce que ça a un certain coût. Je crois que c'est aux alentours de 300 balles ce test.
Ah oui.
Et puis, donc c'est cher, il y a un peu d'anxiété parce que j'ai lu beaucoup de trucs sur internet. Bon, avant de passer le test, j'ai acheté des bouquins, notamment un dont on a déjà dû parler qui s'appelle de Jeanne Sio Fachin, qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. C'est un peu la Bible, quoi. Enfin, les gens ils viennent souvent par là et c'est vrai qu'il y a des trucs où tu te reconnais. Bon, il y a des trucs où je me suis reconnue, il y a des trucs où je me suis pas reconnue.
D'accord.
Donc je savais pas trop, j'ai été voir pas mal de forums sur internet, des gens qui en parlaient et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, de toute façon, le seul moyen de savoir et de ne pas vivre avec ce doute au quotidien, c'est de passer le test.
Ouais.
Et puis en plus, à Marseille, j'avais vu qu'il y avait un groupe, je ne sais pas si tu connais le réseau social, le Meetup, qui organise des... tu peux avoir de tout, hein. Il y a des gens qui organisent des randos, des pique-niques à la plage, voilà. Et j'avais vu à Marseille qu'il y avait un groupe de haut potentiel qui se réunissait, pas très très loin de chez moi en plus. Et j'aurais voulu aller voir pour discuter avec des gens, mais je me sentais pas légitime à y aller tant que j'avais pas passé le test et tant que j'avais pas une réponse, entre guillemets, noire sur blanc, tu vois.
Et oui.
Donc, je me suis prise par la main, un peu stressée de la vie, et j'ai été voir une psychologue à Marseille spécialisée dans ça, justement, que ce soit pour les enfants, les ados ou les adultes, et qui faisait passer le test.
Mmh.
Et cette dame a été super gentille, en m'expliquant bien que c'était pas en fait une question d'échouer ou de réussite, et que ce test, c'était un test qui était utilisé à la fois pour détecter les HP, mais aussi les gens qui avaient des retards de... les retards au niveau du développement intellectuel, en fait. Donc, en fait, c'était un test qui faisait une cartographie, en fait, de ton cerveau, de ton mode de fonctionnement, etc. Donc, il n'y avait pas de bien, pas bien, en fait. C'était juste un truc qui t'expliquait comment tu fonctionnais au niveau cérébral.
Mmh.
Et bon, ça, on a beau te dire ça, c'est quand même stressé quand tu vas passer le test.
Oui, j'imagine.
Et en plus, c'est assez long parce que je crois que c'est 3 heures. Donc, en fait, il y a eu une première séance où elle m'a expliqué, elle m'a demandé pourquoi je venais, de raconter un peu mon parcours, etc.
D'accord.
Ce que je lui ai raconté, c'est un peu ce que je viens de te raconter là.
Ouais.
Après, on a repris rendez-vous et j'ai fait 3 heures de test. Donc, je ne sais pas si on t'a raconté un peu comment ça
s'est
passé.
Non, pas du tout.
C'est le cas. Ah, voilà. En fait, il y a des rubriques qui sont assez diverses. Il y a des trucs qui ont été très, très fun et que j'ai bien aimé. Et d'autres, ça a été une galère épouvantable.
D'accord.
En fait, je ne me souviens pas de tout, mais à chaque fois, donc c'est des rubriques. Ça commence par des questions ou des choses simples à faire et t'augmente de difficulté au fur et à mesure. Et en fait, tu arrêtes la rubrique en question quand tu fais plus de 3 erreurs à la suite. Et ça commence vraiment par des choses basico-basiques parce qu'encore une fois, le but, c'est de mesurer en fait, l'intelligence, mais dans le sens... c'est pas spécialement pour les hauts potentiels, c'est vraiment pour tout le monde et même pour les gens qui ont un retard intellectuel. C'est juste une échelle, en fait.
Mmh.
Et donc, parmi les exercices où j'étais nulle, notamment, qui m'ont un peu traumatisée, t'avais, par exemple, il fallait reproduire des figures avec des cubes.
Ah, putain, oui.
Mais ça, Marine, on aurait dû me teubé avec des moufles. Je crois qu'au bout de la troisième question, parce qu'en plus, c'est chronométré, au bout de la troisième question, j'arrivais plus, en plus, ça me stressait. Et ça, moi, je sais que ça a toujours été un gros point faible. Genre, je suis pas foutue de faire un créneau où je me cogne dans les portes. Et on a commencé, et je me souviens, c'était le premier exercice du test. Et je me suis dit, non, mais en fait, on va arrêter là. C'était trop con, t'es un foutu de refaire un truc alors un cube en couleur avec des cubes, quoi. Mais t'es une grosse débile, quoi.
Mais c'est une question un peu conne, mais c'est un test écrit, c'est sur un ordinateur.
Donc, les cubes, ça, c'est en... Elle remplit. Toi, t'as rien à remplir. Elle remplit des cases suivant ce que tu réponds, suivant ce que tu fais. Et après, c'est... Donc, les cubes, elle te les donne. Et en fait, elle te montre papier, la forme que tu dois reproduire. Et toi, tu dois le faire avec les cubes. Il y avait des questions de culture G. Ça, mais... Moi, qui suis trop forte au Trivial Poursuite, mais j'ai trop kiffé. J'ai fait un sans faute. Je crois que j'ai dû faire une faute. C'était sur le... Je me rappelle. C'était sur la vitesse du son. Tu vois, je savais que c'était un Mac quelque chose, mais je savais plus ce que c'était. Mais ça, j'ai trop aimé.
Ouais.
Il y avait aussi... À Alors, ce qui était cool aussi, mais c'était difficile, des questions de mémorisation. En fait, elle te donnait des suites de chiffres dans le désordre, et puis de chiffres mélangés avec des lettres, et les suites étaient de plus en plus longues. Et en fait, elle te les disait à l'oral, et toi, tu devais les retenir et lui redonner d'abord dans l'ordre dans lequel elle t'avait dit, puis ensuite classer les lettres par ordre alphabétique, les chiffres par ordre croissant, et lui redonner ce qu'elle t'avait dit, tout ça sans écrire. Mais non, en fait, c'est dur, mais c'était... Franchement, c'était cool parce que au début, elle commence facile et ça va de plus en plus dur et puis en mode challenge. Moi, ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Putain, je me souviens pas de tout. Je me souviens qu'il y avait des images où tu devais, dans un temps limité, noter toutes les différences, toutes les similitudes. Enfin, des trucs comme ça. C'est vraiment, en fait, des jeux cérébraux comme tu peux avoir. Je sais qu'ils font ça en... Tu sais, en jeu vidéo,
oui, comme ouais, ça. Ouais.
Donc, à la fois, il y avait un côté ludique. Franchement, tu n'as pas l'impression de passer un test, un examen. Il y a un côté ludique, mais en même temps, tu vois que tu es beaucoup plus performant dans certains trucs et il y en a d'autres où tu es franchement naze, quoi.
D'accord.
Et en fait, donc ça lui permet de... Ça lui permet, en fait, il y a plusieurs indices. Il y en a 4, 2 majeurs et 2 mineurs. Et si tu as... un de ces indices où ton QI est supérieur à 130, tu fais partie de la catégorie des hauts potentiels. Sachant que moi, elle m'a expliqué que pour les gens en général, en fait, la moyenne est à 100. Intelligence moyenne est de 100.
Ouais.
Plus de 130, tu es haut potentiel. À partir de 110, c'est de l'intelligence haute. Et moins de 80, c'est de l'intelligence basse.
D'accord.
Et elle m'a expliqué qu'en fait, c'était pas possible de calculer. Les gens se trompent parce que c'était pas possible de calculer un QI global. Parce qu'en général, il y a trop d'écart entre les différents indices pour qu'on puisse calculer une moyenne qui ait du sens.
Ah oui, d'accord.
Et je crois que si tu as plus de 5 points d'écart entre les différents trucs, ça n'a aucun sens de faire une moyenne globale, ça ne veut rien dire.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et que moi, elle m'a expliqué qu'à partir du moment où tu avais un des deux indices majeurs, donc un des quatre, mais surtout un des deux indices majeurs qui était au-dessus de 130, tu faisais partie de la catégorie au potentiel. Et moi, donc, elle m'a rendu les résultats. C'est ça qui est bien aussi. Quand ils te rendent les résultats, t'as un accompagnement. Elle t'explique bien où est-ce que tu as échoué, pourquoi, où est-ce que tu as réussi. Et moi, du coup, ça a permis de diagnostiquer le côté haut potentiel, mais aussi le fait que j'étais dyspraxique.
D'accord.
Donc, en fait, c'est quand t'as un problème pour te situer dans l'espace, pour les volumes, d'où les problèmes. Et en fait, ça expliquait beaucoup, beaucoup de choses parce que ça m'a... moi, j'ai tout de suite capté pourquoi est-ce que j'aimais pas conduire et que j'avais beaucoup de mal et que c'était vraiment quelque chose qui me stressait, etc. Parce qu'en fait, j'ai 40 points, je suis dans la moyenne normale pour tout ce qui est côté intelligence, volume, espace, temps, etc.
Ouais.
Et je suis à quasiment 140 pour tout ce qui est intelligence au niveau linguistique, manier les concepts, les idées, etc. Donc elle m'a dit, en fait, vous avez 40 points de QI entre ces deux trucs-là, ce qui est juste énorme. Et elle m'a dit, c'est normal du coup qu'il y ait un domaine où vous soyez beaucoup moins à l'aise.
D'accord.
Et du coup, ça m'a expliqué plein de trucs. Enfin, en fait, j'ai vraiment, plus que le côté haut potentiel, ce fonctionnement du cerveau, moi, ça m'a mis en évidence plein de trucs sur ma vie, quoi. Ma mère qui me dit que je suis maladroite au possible depuis que je suis toute petite, ben, en fait, c'est peut-être lié à ça. Le fait que je sois nulle en conduite, c'est peut-être lié à ça. Le fait que je sois toujours en train de me cogner partout, c'est peut-être lié à ça. Enfin, tu vois, ça m'a vraiment... En fait, ça m'a vraiment expliqué plein de choses sur moi. C'est très con, mais ça n'a pas changé ma vie. Mais j'ai arrêté de m'en vouloir d'être maladroite. Et maintenant, je me dis, bah, c'est pas en me disant « sois plus attentive » que je serai moins maladroite. Non, c'est que je fonctionne comme ça.
D'accord. Ça veut dire quoi ? Tu peux pas travailler sur ça
Tu peux travailler. Il portait particulièrement à moi. Elle m'a dit si par exemple ça vous gêne vraiment au quotidien, vous pouvez faire de la rééducation. Mais elle me dit, en fait, souvent on propose ça aux enfants.
Et
parce
oui.
qu'à votre âge, si vous avez continué comme ça, c'est qu'il n'y a jamais. En fait, ce qu'elle m'a dit, probablement le fait que vous soyez haut potentiel et dyspraxique, c'est ça qui a fait qu'on a. On a diagnostiqué ni l'un ni l'autre chez vous, en fait, étant enfant. Parce qu'en fait, je devais le compenser, la dyspraxie, par le haut potentiel. Ce qui fait que j'utilisais d'autres capacités pour arriver quand même à faire des choses qui étaient plus compliquées pour moi. Genre, par exemple, découper droit sur un trait ou faire de la géométrie, etc. J'utilisais d'autres techniques pour y arriver que les techniques, on va dire, classiques. Et à l'inverse... Comme j'avais la dyspraxie, c'est probable qui me entre guillemets ralentissait. C'est probablement aussi pour ça qu'on n'a pas diagnostiqué le haut potentiel quand j'étais enfant.
D'accord.
Donc en fait, tout s'est un peu, ça s'est un peu équilibré. Et j'ai grandi un peu en, mais comme le fait tout le monde, en fait, en équilibrant forces et faiblesses.
Bien sûr. Et du coup, Franck, il connaissait, enfin, pourquoi ça lui est venu d'un coup de demander si t'avais passé le texte, enfin, il connaissait écoute, déjà.
J'en sais rien.
Ah, tu sais pas. D'accord.
En fait, j'en sais rien. J'ai été tellement secouée que quelqu'un me comprenne. Après, on en a beaucoup discuté et lui m'a dit que parce que, en fait, alors je pense qu'il connaissait la problématique. Je sais pas s'il avait déjà croisé des gens comme ça ou pas.
Ouais.
Mais lui m'a dit que c'était, par exemple, au niveau des conversations qu'on avait, des lectures que j'avais et aussi, ce qui est une composante importante, c'est tout ce qui est la sensibilité, l'émotivité, le côté un peu...
La fleur de peau.
En fait, ça, voilà, ça va souvent... C'est pas très connu, mais ça va souvent de pair quand on parle d'intelligence. C'est pas que l'intelligence, on va dire, intellectuelle, logique, etc. Ça va être aussi au niveau émotionnel. Et ça va aussi être le fait que bah, parfois, tu... pour moi, le haut potentiel, c'est être à un niveau d'intensité. C'est pas être plus intelligent, c'est être à un niveau d'intensité qui est un peu plus fort que la moyenne. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, ça va être, en fait, tu vis pas ta vie en mode longue ligne droite. C'est les montagnes russes un peu tout le temps.
Ah oui, d'accord.
Et du coup, au niveau émotionnel, c'est vrai que ça peut se percevoir, pas forcément quand tu connais pas bien la personne, parce que c'est un truc que tu maîtrises, enfin, que tu arrives à contrôler, mais on va dire au niveau émotionnel, moi je sais que je suis jamais vraiment en ligne droite, c'est toujours un peu les montagnes russes, tu vois, surtout dans les relations amoureuses notamment. Par exemple, je m'ennuie très vite, si j'ai pas l'impression de vivre un truc à fond, je sais que je lâche un peu l'affaire. Et en même temps, quand tu vis des relations qui sont un peu toxiques, comme ce que j'ai vécu, t'arrives pas à...
T'en détacher.
Voilà, t'arrives pas à te détacher. Tu veux tellement que ça soit parfait, que tu prends sur toi. Donc en fait, il n'y a jamais de temps mort. Tu vois, c'est toujours montagne russe pour tout. Il faut qu'il y ait de la stimulation intellectuelle, émotionnelle, etc. pour tout. Que des fois c'est juste fatigant. Tu te fatigues toi-même, tu fatigues les autres. Enfin, c'est gonflant, quoi.
Ouais, d'accord.
Mais ce qui était cool, c'est que du coup à ce groupe où j'ai été, bon, j'ai été que deux fois à Marseille.
Du coup, tu as été, ouais. Top.
Et ben, j'ai rencontré un mec, Nicolas, avec qui on est devenus amis tous les deux. Du coup, on se voit régulièrement maintenant parce que. Enfin, on a un peu le même ressenti, un peu le même parcours, et ça a été vraiment, vraiment un gros réconfort, tu vois, de voir qu'il y avait des gens. Lui aussi, il a vécu des relations toxiques, donc je me dis qu'il y a peut-être un dénominateur commun là aussi, tu vois.
Ouais.
Et lui, il a eu un parcours beaucoup plus compliqué que moi, parce que lui, il a lâché l'école super tôt, il a eu des problèmes de drogue, enfin, ça a été très, très compliqué pour lui. Là, ça fait une dizaine d'années qu'il en est sorti, qu'il a un travail stable, que... Mais il voit une psy et tout, parce que lui, ça a été très, très compliqué aussi. Pareil au niveau de tout ce qui est émotionnel, d'apprendre à ne pas vouloir à tout prix changer le monde et sauver les gens, et à penser à soi et à se dire que on ne peut pas tout changer dans le monde. Ça a été un truc un peu compliqué pour lui. Donc, voilà. Je me dis que paradoxalement, moi, je suis quelqu'un quand même de relativement équilibré, malgré tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Et je me dis, il y a des gens qui n'ont pas forcément... cette chance-là, tu vois.
Ouais. Oui, donc, et puis chaque parcours est différent, voilà. Chaque cas est unique.
Oui,
c'est ça.
Et puis c'est pas un truc, au début, moi je me rappelle, juste après avoir fait le test, j'avais l'impression que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, ou que c'était ce qui me définissait, et c'était tout, tu vois. Et en fait, ça s'estompe très vite, parce qu'au bout d'un certain temps, tu n'y penses plus, et tu te dis, je suis juste moi, avec mes qualités, mes défauts, et c'est juste que j'ai un fonctionnement un peu différent, on va dire, de la moyenne des gens. Mais en même temps, qu'est-ce qu'une moyenne? Ça ne veut rien dire, tu vois. Tout le monde a un fonctionnement un peu différent, et il y a des gens qui sont performants dans certains trucs, et moins dans d'autres trucs. C'est juste un petit côté atypique, comme le fait d'être gaucher, ou je sais pas, j'ai pas l'idée d'avoir un œil de chaque couleur, quoi.
Ouais, mais du coup tu dirais que les mots, enfin, ce que t'as ressenti au moment où on a mis définitivement
quand elle me l'a dit, moi.
Ah d'accord, de joie ou de
pas de joie, non pas de joie du tout.
D'accord.
J'ai pleuré parce que ça a expliqué beaucoup de trucs sur moi que j'avais pas forcément compris avant.
D'accord.
Et du coup, j'étais un peu désemparée de... Je sais pas, c'est difficile à expliquer. J'étais un peu désemparée. J'en ai un petit peu voulu à mes parents de pas l'avoir vu.
D'accord.
C'est passé vite, hein, mais
Oui.
et en même temps, c'était aussi pas de joie, mais du soulagement d'avoir entre guillemets un mot de posé sur un truc que tu pressentais plus ou moins, mais sans en avoir la réponse, sans le fait de je sais pas, de se dire bah je suis pas anormal, et en même temps c'est normal si j'ai un peu parfois l'impression d'être un peu en marge pour certains trucs.
Ah oui.
Donc non, c'était plus à la fois de la frustration et du soulagement en fait.
D'accord. Et tu continues, ça demande un suivi après
Non,
ça
carrément
ou
pas.
non, pas du
Carrément
tout,
pas.
pas du tout. D'accord.
Ben, enfin, après, moi, j'ai jamais eu de problème pour être adaptée socialement. J'ai un travail, j'ai des amis, je ressens pas de mal-être profond, tu vois. Je pense que c'est pas anodin que je l'ai fait quand je l'ai fait. J'ai décidé de passer ce test à un moment où ça allait pas méga bien dans ma vie, où je remettais pas mal de choses en question. Ça a permis d'avancer, ça a permis de mettre des mots sur certaines choses, mais moi, j'y allais pas dans l'optique de changer quelque chose dans ma vie. Je voulais
D'accord.
juste avoir une réponse à une question que je me posais depuis longtemps.
D'accord.
Mais du coup, comme ma vie me convient, que je suis adaptée socialement, que j'ai un travail, des amis, etc., il n'y a pas de... Non, il n'y a pas besoin de suivi, c'est pas une maladie, c'est juste une petite particularité, quoi.
Oui. Ok. Et comment t'expliquerais du coup le fait que tu l'aies pas encore dit à tout le monde? Est-ce que c'est parce que tu trouves que c'est pas quelque chose qui s'annonce? Est-ce que c'est juste parce que ça, y a pas, enfin, ça serait bizarre de dire
Alors, en
ah.
fait, je l'ai pas dit à vraiment, j'ai dû le dire à toi. Je l'ai dit à mes copains Julie et Brice et à ma mère, et c'est tout.
D'accord.
Parce que je veux pas. Et à Nicolas, du coup.
Oui.
Parce que t'as peur de l'incompréhension des gens, en fait. Parce qu'à chaque fois, il faut expliquer ce que c'est derrière, parce que sinon. Enfin. C'est très compliqué de... Déjà, tous les gens ne sont pas forcément hyper bienveillants ou ouverts d'esprit. Je dirais surtout ouverts d'esprit parce que... Et quand tu dis le truc, ça va pas parler aux gens. Il va falloir expliquer derrière. Et c'est... Enfin, c'est chiant d'expliquer derrière. Parce que c'est compliqué. Là, tu vois, j'essaie de t'expliquer, mais c'est à peine 5% de ce que je voudrais vraiment te dire, et je sais pas comment te le dire, et puis il y a aussi la peur, par exemple au travail je le dis pas parce que même si je m'entends très bien, j'ai peur que les gens soient un, me trouvent prétentieuse, deux, s'attendent à ce que je fasse des trucs de ouf, genre multiplier des chiffres de ouf, ce que je suis totalement incapable de faire. Enfin, t'as
Ouais.
pas envie que le regard des gens change sur toi, t'as pas envie de... Je pense qu'il y en a, ça serait... Enfin, à la fois, tu as peur qu'on te pose des questions, de ne pas savoir expliquer, et en même temps, à la fois, tu as peur que les gens en aient un peu rien à faire. Tu vois, si je ne l'ai pas dit à mon père et à mon frère, par exemple, je pense que c'est parce que j'ai peur d'avoir un... Ah bon, bah ok, d'accord. C'est tout, tu
D'accord,
vois.
ouais.
Et donc, ouais, je sais pas. Et puis, au début, j'avais besoin de le dire, et maintenant, non, en fait. C'est plus vraiment un besoin, voilà, c'est pas un truc qui me définit, c'est un truc qui est là, et comme t'as pas besoin de dire aux gens spécialement je suis gauchère, bah t'as pas
C'est
besoin de dire
ça,
aux gens spécialement,
ouais. Je
voilà.
vois, oui.
Mais c'est vrai que du coup, ouais, non, je trouve que c'est pas un truc que tu dis facilement. Il y a peur du jugement de l'autre, enfin, pas du jugement, de l'incompréhension en fait.
Ouais, d'accord. Ok.
Je sais pas si la nana qui l'a fait quand elle avait 6 ans, elle le dit facilement, mais
Je pense qu'elle le dit pas.
voilà.
Effectivement.
Et moi,
Non,
je demandais
elle.
à mon pote Nicolas, et lui, pareil, il l'a dit à très peu de monde. Et en général, quand il le dit, lui, il a une petite formule, mais je lui dis, mais ta formule, enfin, moi, tu me dis ça me rend. Il dit qu'il est neuro-atypique. Mais je lui dis, mais moi, tu me dis ça, je suis encore plus perplexe, parce que ça veut dire
Ouais.
quoi, neuro-atypique?
Ouais,
Ça veut vouloir
j'avoue.
dire que
J'avoue.
c'est tout et rien, quoi.
Tu leur dis que t'es
Mais parce.
zèbre, parce qu'apparemment on appelle
Mais
les gens
alors
à haut
voilà, tu
potentiel
vois.
des zèbres.
Ben, ça, je pense qu'il y a un gros problème avec le vocabulaire parce
Bah
que surdoué, c'est nul parce que ça veut
oui.
dire plus doué que les autres. Enfin, plus doué que les autres en quoi? Tu me demandes de jouer du violon, quoi, tu vas vite te rendre compte que bah, surdoué, quoi. Haut potentiel, c'est le truc qui est à peu près le plus adapté parce que, mais t'as toujours le fait de te dire, bah, haut potentiel, ok, c'est du potentiel. Donc, si j'en fais quoi? Si j'en fais rien, j'ai loupé ma vie. Oui, bah, j'ai rien fait de fou dans ma vie, donc j'ai loupé ma vie. Enfin,
Ouais, je
voilà,
vois, ouais, je vois ce que tu veux dire.
zèbre.
Bon, zèbre, ça, j'ai pas
Zèbre,
compris,
j'ai
j'avoue,
des
j'ai.
zèbres dures sur les genoux,
Y a que, je pense, comme tu dis, en fait, en anglais, quand ils disent gifted, donc c'est un peu une idée du don, et je pense que c'est un peu ça. Après, le problème du don, C'est que comme tu dis, t'as l'impression que voilà, c'est ça. C'est que tu dois l'utiliser en fait. Et en fait, bah non, t'as le droit de. Oui, tu peux l'utiliser bien sûr, mais.
C'est surtout que c'est pas un bouton en mode on off. Moi, je le vois plutôt comme c'est une manière d'être au monde. Voilà. Et c'est même ça, tu vois, ça m'énerve. C'est juste une manière d'appréhender le monde. Et comme de tout temps, il y a une moyenne de gens, la majorité, voilà, c'est la majorité qui appréhende le monde d'une telle manière, et il va y avoir des petites minorités qui vont l'appréhender d'une autre manière. Mmh. Il y a toujours eu des majorités et des minorités dans l'histoire, et ben voilà, ben, là, c'est juste une minorité qui est quand même assez nombreuse, parce que je crois que c'est 2% à peu près de la population française. Bon, et ben voilà, c'est juste d'être un petit peu, avoir une petite particularité, mais tu vois, il n'y a pas le côté ben, je choisis d'utiliser ou je choisis de pas l'utiliser. Non, c'est une manière d'être au monde, une manière de percevoir le monde qui peut être un peu différente. Bah écoute, ok. Après, aussi, une fois que tu le sais, ça te permet de travailler sur certaines choses. Moi, je sais que ça m'a permis d'être. J'ai compris pourquoi j'étais tellement impatiente avec les gens. Je sais que parfois au boulot, je suis un peu gonflante parce que. Même avec des gens que j'aime bien, j'ai tendance à vouloir que ça aille vite, tu vois. Parfois, ça m'énerve quand les gens ils vont pas assez vite. Bon, ben, j'ai compris que c'était peut-être lié à ça, et du coup, je fais des efforts pour pas être trop relou.
Ouais. Voilà.
Donc, c'est juste, voilà, ça te permet, c'est des clés de compréhension, ça te permet de mieux te connaître.
C'est toi, ça, en fait. Tu t'as appris à te connaître, en fait, ouais.
Voilà, je pense que c'est totalement différent quand tu l'apprends tôt et que t'es encore à l'école, parce que je pense que si t'es diagnostiqué tôt, c'est que quelque part, il y a peut-être des petits soucis à l'école qui font qu'on t'amène à ce diagnostic. Mais quand tu l'apprends tard et que t'as pas de problème psychologique particulier, que t'es pas en marge de la société, que t'arrives pas à trouver ta place, etc., quand tu l'apprends et que ça va à peu près, bon, bah, c'est juste des clés de compréhension de toi, en fait.
C'est ça.
Et même moi, si c'était moins cher, j'encouragerais tout le monde à le faire parce que c'est super intéressant de savoir comment son cerveau fonctionne, quoi.
Eh oui.
Et quels sont les domaines où tu es plus ou moins à l'aise. C'est juste super intéressant, en fait.
Bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que je ne savais pas que c'était aussi onéreux.
Ah ouais. Moi, j'ai fait plusieurs études de marché et parce que je voulais quelqu'un de sérieux qui soit agréé, mais je voulais pas. Enfin, il y a des différences de tarifs de ouf. Hein, ça peut aller jusqu'à 500 balles. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que ça couvre 3 rendez-vous chez le psy, dont un qui est de 3 heures. Et puis après, elle doit corriger et tout le test. Et puis le test, il y a une forme de licence, tu vois. Elle paye pour... c'est un test qui est... Au niveau international, il est adapté à chaque pays, mais tu peux payer une licence pour pouvoir le faire passer. Donc ça, je pense que c'est répercuté dans les coûts aussi.
Oui. Le résultat, tu l'as tout de suite après ou non plusieurs...
Non. Tu l'as 15 jours après. C'est pour ça, en fait, elle espace les rendez-vous. Le tout premier rendez-vous pour lui raconter un peu ton parcours, c'est genre une semaine avant le passage du test. Et après, t'as facile... 15 jours, 3 semaines avant d'avoir les résultats et elle ne te les donne pas par téléphone ou par mail, elle te les donne vraiment à l'occasion d'une consultation où elle t'explique vraiment tout, tu refais le point sur tout, elle t'explique vraiment le... Voilà. Parce que je pense que ça peut... Déjà moi qui... Bon, ça allait à peu près, mais qui me suis mise à chialer, je me dis les gens qui ont peut-être des fragilités particulières, ça peut être compliqué. Enfin, tu te prends un peu en pleine poire, quoi, même si... Quelque part, tu y vas parce que tu veux une réponse à ta question et que je pense que j'aurais été déçue qu'elle me dise c'est pas ça parce que je me serais dit bon, bah ok, c'est pas cette particularité, ça c'est autre chose, mais en même temps, même quand tu as la confirmation, ça, c'est un peu déstabilisant.
C'est aussi dur, ouais.
Et en même temps, comme il y a aussi des enfants qui peuvent le passer, c'est un test un petit peu différent, mais il y a aussi des enfants qui le passent. T'as forcément besoin d'avoir les parents et d'expliquer aux parents
oui,
ce que ça implique, pourquoi, comment, etc. Quoi. Mais c'est vrai qu'après, rétrospectivement, à quasiment un an, ça n'a pas changé ma vie du tout au tout. Quoi. C'est juste que j'ai compris certaines choses et que je me connais mieux et donc que du coup, je m'en veux moins pour certains trucs, tu vois.
Ok. Non, mais c'est super intéressant, c'est assez fou, quoi. Mais et juste pour terminer, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner, peut-être, s'il y a des jeunes, par exemple, soit qui ne le savent pas encore, mais qui se posent des questions comme toi, tu as pu t'en poser. Toi, si tu devais refaire peut-être quelque chose, est-ce que tu referais quelque chose? Est-ce que tu aurais aimé savoir qu'on te dise quelque chose, par exemple, et que toi, tu pourrais le dire aujourd'hui?
Pas vraiment. Je peux même pas dire. De toute manière, la seule manière, enfin, c'est plutôt de rester avec des doutes. Il vaut mieux avoir une certitude. Et le seul moyen d'avoir cette certitude, c'est de passer le test. Après, je sais bien que quand on n'est pas majeur, qu'on ne gagne pas sa vie, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler à ses parents ou pas forcément l'argent à mettre là-dedans. Mais c'est surtout pas, peut-être pas avoir honte de se dire « et si ?» Moi, je l'étais, et de se renseigner dans la mesure du possible sur Internet, etc. Parce qu'on a un truc dans notre société qui fait qu'il y a toujours une sorte de honte et de se dire « Ah non, mais je suis prétentieux de penser ça, ou, et du coup, j'en parle pas, je vais pas me renseigner parce que non, ça peut pas être ça, en fait. » Voilà, donc de se dire de toute manière, le seul moyen d'être sûr, d'avoir un oui ou un non à ça, si on se pose des questions, c'est de passer le test, mais peut-être de ne pas hésiter avant, tout du moins si on n'a pas la possibilité matérielle de le passer, d'aller se renseigner sur Internet. Il y a plein de forums cool où il y a des gens qui parlent vraiment un peu de... Tu as des gens à différents moments du processus, en fait. Des gens qui ont passé, des gens qui envisagent de passer, des gens qui ont lu le livre et qui se posent des questions...
Ouais.
Voilà, moi je sais que le livre, ça a été vraiment 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 le point de départ, où le jour où j'ai décidé de l'acheter, je pense que c'est le jour où j'ai commencé à mettre en œuvre, tu vois, la mécanique qui allait me conduire à passer le test. Mais il s'est passé 3 ans hein, entre le moment où j'ai acheté le livre et où j'ai passé le test.
Eh oui.
Mais c'est de pas hésiter à se dire, bah, j'ai une question, elle est légitime, que je le sois ou que je le sois pas. Si je me la pose, c'est que quelque part, j'ai besoin d'avoir une réponse. Et donc, utiliser les moyens qui sont à disposition pour pouvoir,
pour répondre.
Possible, y répondre. Tu ne vas pas avoir... pas se freiner parce que ce n'est pas socialement très bien vu ou admis de se dire « je suis différent des autres ».
Eh oui, ok.
C'était absolument pas clair ce que je t'ai dit. Je me dis pour retraduire ça en bon français, mais tu vas galérer.
Si, c'est très très clair. Surtout que c'est ce que je retrouve dans ce que j'entends et dans ce que je vois et dans ce que... Donc oui.
Ouais, parce que si t'as 2 minutes, je veux bien que tu me dises ce que les psy et la nana de... L'autre nana, elle t'a dit...
Bah, alors écoute, les psys, donc moi j'ai surtout posé des questions, donc comprendre qu'est-ce que c'est un haut potentiel, donc elles m'ont expliqué, est-ce que tu m'as aussi expliqué du coup à quel moment on dit qu'on est haut potentiel ou pas, voilà, donc j'ai eu tout ce côté-là. Moi j'ai demandé, tu vois, donc j'ai surtout, enfin ce qui ressortait c'était de dire le côté de pas avoir honte de se poser la question, ça clairement ça a été un des conseils que l'une des psychologues m'a dit, et que voilà, faut pas hésiter, en fait faut pas hésiter à se faire accompagner, à consulter forcément parce qu'elle est psychologue, mais en tout cas en parler, à poser des questions, à se renseigner, etc.
Oui, parce donc que ça... moi c'est ce que la psy elle m'avait dit. De toute manière, dans les cabinets, une fois que les gens ont passé le test, ce que tu vois dans les cabinets, c'est les gens qui vont mal.
Voilà.
Donc
voilà.
C'est une erreur de croire que tous les gens qui sont au potentiel vont mal. Non, c'est juste que par définition, si tu vois les gens dans ton cabinet, c'est qu'ils vont pas bien.
C'est
quoi.
Ça, c'est ça. Et donc c'est une, la première que j'ai interviewée m'a dit ça aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé aussi de demander si quand on était au potentiel, et notamment quand on est plus jeune, est-ce que ça induit pas forcément, mais souvent des échecs scolaires, etc. Et donc elle me disait qu'en fait non, c'est ça qu'on mettait souvent en avant, parce que encore une fois, quand on est psychologue et qu'on reçoit la personne, c'est qu'elle va pas très bien. Et donc oui, forcément on pourrait être tenté de dire que X% des enfants au potentiel ou des adolescents au potentiel sont en échec scolaire, alors qu'en fait elle me disait pas du tout.
La majorité des gens,
exactement,
les vois pas, quoi.
Elle me dit la majorité du temps c'est tout l'inverse, c'est au contraire ils excellent, en fait ils sont bons à l'école, c'est plutôt l'inverse. Après ça arrive que ça se traduise différemment et que y ait des échecs scolaires, etc. Mais voilà, après il y en a beaucoup, il y en a aussi une qui m'a beaucoup rappelé que il fallait pas non plus tout mettre sur le dos du haut potentiel, qu'il fallait encore une fois, ça permettait effectivement de répondre à des questions, à se connaître mieux soi-même, et que c'était forcément positif, mais que des fois il y avait aussi d'autres troubles à côté qui pour le coup nécessitaient de régler ça, et de pas se dire ah mais si je suis hypersensible, c'est parce que je suis au potentiel. Ouais. Pas forcément. Des fois, peut-être
que... Oui, non, parce que tu peux avoir d'autres, entre guillemets, c'est pas pathologie, le
non,
terme, mais...
Non, mais je vois, style, peut-être que tu es déprimé, que tu t'en rends pas compte, ou peut-être que tu as une hyperactivité, quelque chose qui fait que... Voilà, tu, en plus du haut potentiel...
Tout simplement, les problèmes, c'est ce que je te disais disais, de dyspraxie, dyslexie,
voilà,
etc. Parce qu'en fait, exactement, le côté un peu pervers du haut potentiel, c'est que tu as tendance à compenser. Mais c'est fatigant de compenser, en fait. Alors que peut-être que, et ça peut faire que tu passes à côté d'une prise en charge, notamment pour les enfants, qui est nécessaire. Les gens qui sont dyslexiques, etc.
Et oui.
Il y a besoin d'une prise en charge.
Complètement.
D'accord, mais c'est marrant qu'elle t'ait dit ça. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. C'est intéressant.
Mais bon, elles m'ont dit plein de choses, hein. Honnêtement, là, à chaque fois, j'ai entre 30 et 40 minutes d'échange. Donc là, je suis vraiment dans la retranscription, je réécoute, je retravaille, voilà. Donc, mais même dans les deux psychologues, du coup, bah, y a des choses qui se recoupent énormément. Donc je me dis, bon, voilà, c'est assez intéressant. Il y a vraiment l'idée aussi qu'il n'y a pas de... Ça, c'est pas une recette, genre, ça y est, vous êtes au potentiel. Bah, alors, vous faites comme ça, et c'est bon, tu vois. Enfin, c'est juste... Tu vois, c'est au cas par cas, c'est vraiment compliqué. Enfin, il y en a une qui m'a aussi beaucoup parlé de ce que tu as un peu évoqué aussi, avec l'idée de mettre la pression à quelqu'un qui a haut potentiel, en fait, sans même le s'en rendre compte. Et elle me disait, bon, aussi beaucoup ça par rapport aux adolescents, parce que du coup, ça faisait partie de ma question, mais elle disait déjà de base, les adolescents, on a beaucoup de pression parce qu'il faut faire des choix d'orientation, de ceci, de cela. Et disait, et quand on a quelqu'un qui a un haut potentiel, bah, souvent, il y a des aspirations... pour cette personne qui est parfois pas en accord avec ce qu'elle veut vraiment. Et souvent, les personnes se mettent elles-mêmes la pression. Et voilà, elles se mettent la pression. Elles disent, voilà, très souvent, on dit, enfin, ils vont vers des filières S, parce que S, c'est considéré comme les filières d'excellence, etc. Alors que peut-être que la personne,
alors
au fond d'elle-même...
En souffre énormément.
Ben voilà, tu vois, et puis qu'elle disait, voilà, si les gens sont foncièrement littéraires, bah, bon, bah, ça peut... poser des soucis, ou si des gens ont envie de faire un bac pro parce que ce qui les botte, c'est la mécanique, ou j'en sais rien, la cuisine, etc., ça peut être très mal perçu par l'entourage. Enfin, il y a aussi tout un travail parfois à faire.
Mais ça, je suis d'accord avec elle. Tu sais quoi, moi, je suis contente quelque part de l'avoir découvert, entre guillemets, par moi-même et sur le tard, en ayant déjà une carrière définie. Parce que je pense que sinon, je me mettais déjà une pression de ouf au lycée, mais je pense que j'aurais su ça...
Ah ouais.
Je pense que ça m'aurait pas aidé.
En tout cas, aujourd'hui, tu te dis pas.
J'ai raté ma life.
Non. Pas j'ai raté ma vie, mais en tout cas, je fais pas ce qui me plaît, en fait. Non, pas du tout. Tu es pas du tout là-dedans.
Non, non.
Non.
Ouais, non, carrément pas. Moi, j'ai fait.
T'as foncièrement choisi.
Le seul truc que je pourrais regretter, c'est ce que tu disais. Moi, j'ai fait S parce que j'étais bonne à l'école et que mes parents partaient du principe que comme j'étais bonne à l'école, il fallait que je fasse S. Alors que si je m'étais écoutée, je me serais beaucoup, beaucoup plus épanouie dans une filière littéraire.
D'accord.
Mais non, c'est pas... Enfin, j'ai pas eu cette pression, moi, de l'entourage, tout simplement parce que, un, personne ne le savait. Non, j'étais bonne à l'école. Donc oui, mes parents m'ont un peu poussée à faire S, mais ça s'est arrêté là. Après, les études supérieures, c'est moi qui ai décidé et tout. Mais je suis... contente de ne pas l'avoir su plus tôt parce que je pense que j'aurais pas eu la maturité émotionnelle peut-être pour le gérer comme je le gère maintenant. Je pense que ça m'aurait rajouté une pression supplémentaire.
Ah oui, d'accord.
Et le fait d'échouer au concours de Sciences Po et tout, je pense que je l'aurais pas compris parce que tu peux peut-être avoir ce côté-là. Toi, tu le comprends, mais d'avoir peur que les autres le comprennent pas.
Mais je vois ce que tu veux dire en plus, parce que ça fait écho à ce que me disait la fille que j'ai interviewée hier, donc qui l'a su à 6 ans. Elle disait, le problème qui s'est posé pour moi, c'est que j'ai jamais travaillé pour avoir de bonnes notes. C'est-à-dire que vraiment, j'avais tellement de facilité que... Moi, j'ouvrais quasiment pas un cahier, en fait. C'est-à-dire que je retenais tellement bien ce qui était dit en cours, j'écoutais, et voilà. Et ça m'intéressait, je posais énormément de questions, j'étais très curieuse. Enfin bon, elle était vraiment dans cette gourmandise de culture, etc. Ce qui fait que, bah, elle disait, voilà. Et puis voilà, cette mémoire qui faisait que, très honnêtement, pendant très longtemps, et en gros jusqu'au bac, elle m'a dit, j'ai fourni très peu d'efforts. Et j'ai jamais appris à apprendre, j'ai jamais eu cette culture de l'effort aussi pour réussir. Donc elle me dit, j'avais des bonnes notes, je m'en sortais bien. Au bac, elle dit, je suis allée un peu en mode vacances et touriste, mais bon, je l'ai eu, elle a eu 13 de moyenne, je crois, mais voilà, elle me dit, j'ai pas eu une mention très bien, mais sans travailler, j'ai quand même réussi à avoir 13 de moyenne.
Ouais, mais...
Et après,
mais après, du coup, c'est plus difficile quand après, on te demande vraiment de...
Et ben voilà.
Faire un autre...
Et elle dit, après, j'ai complètement échoué dans mes études supérieures au début parce qu'elle est allée en prépa, je sais plus quelle prépa. Et elle dit, en fait, là, je me suis retrouvée face à des gens qui, peut-être, n'étaient pas au potentiel, mais qui, par contre, savaient travailler, savaient réviser, savaient donner le meilleur d'eux-mêmes, être dans cette... Et moi, j'étais pas du tout à ma place, en fait.
Ouais.
Et c'est là où...
Et c'est là où je te dis que le côté côté émotionnel et sensibilité a un rôle très important, parce que moi, c'est un peu différent de la fille que tu as interviewée. Moi, j'ai toujours énormément travaillé dans les matières qui m'intéressaient. Mais parce que je pense que c'était le côté un peu perfectionniste, il fallait vraiment que tout soit parfait. Et si tout n'était pas parfait, je me faisais des nœuds à l'estomac. Et par contre, je ne travaillais pas dans les matières qui ne m'intéressaient pas. Genre les maths, je n'ai absolument pas révisé pour le bac. Bon, bah, j'ai eu 9, tu vois. Donc, ça s'est vu. Mais par contre, effectivement, en arrivant en prépa, tu te retrouves avec des gens où c'est la compète à mort. Et moi, ça ne m'allait pas du tout.
Et elle ose pareil.
Et c'était plus le plaisir d'apprendre, c'était vraiment la performance. Et moi, ça m'a fait perdre tous mes moyens, quoi.
Et elle, c'est pareil. Elle m'a dit, aujourd'hui, je ne veux plus faire pour être première. C'est pas ça, quoi.
Mais ça, je pense que c'est propre à pas mal de monde.
Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est assez marrant de voir que, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Enfin bon. Mais non, c'était hyper intéressant.
Et ta fille, elle fait quoi aujourd'hui? Elle a dans nos âges à peu près?
Elle a 24 ans. Elle est mécanicienne dans l'armée.
Ah oui, d'accord.
Sur les Rafales, crois. Donc,
Oui, d'accord.
Voilà. Donc,
oui, elle change pas des boulons, quoi.
Non, enfin, je sais pas, et après,
elle change peut-être des boulons, mais si elle se gourde de boulons, on peut y avoir
des boulons. Ouais, donc voilà, donc, mais...
Et tu l'as contactée comment t'as eu